Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Au sommaire ce soir, une course contre la montre est engagée contre le variant Omicron. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prévient qu'il faut analyser le nouveau variant pour pouvoir adapter le cas échéant les vaccins en Europe. La contagion se poursuit. 13 nouveaux cas détectés aux Pays-Bas. Une dizaine de cas possibles en France, dit ce soir Gabriel Attal. Le monde se barricade. Israël ferme ses frontières. Mais avant cela, on s'intéressera à la réunion européenne à Calais pour lutter contre le trafic migratoire. La Grande-Bretagne n'était pas invitée, mais nous voulons travailler avec nos amis britanniques, explique Gérald Darmanin.
Nous avons choisi de ne pas inviter finalement Madame la ministre britannique ici à Calais. Nous avons travaillé en européen avec la Commission, montré notre solidarité, mais nous voulons travailler avec nos amis et alliés britanniques. Cette réunion n'était pas anti-anglaise, elle était pro-européenne.
Et les précisions avec Marie-Pierre Véraud dans un instant. Dans ce journal également, l'onde de choc de l'affaire Nicolas Hulot qui secoue les écologistes. Mathieu Orphelin écarté de la campagne présidentielle de Yannick Jadot. Et nous irons dans les Pyrénées où la première station de ski de Portet-Pumerins vient d'ouvrir sous une neige qui tombe en abondance. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport au menu du football. Le PSG gagne à Saint-Étienne 3-1, mais perd Neymar blessé à la cheville. Le temps pour demain. Le Pas-de-Calais et le Nord placés en vigilance orange pour crue. Et dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, la vigilance orange, neige et verglas est doublée d'une alerte avalanche. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. À 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai 7 ans. Comment se fabriquent les aiguilles car le trou est quand même petit? Au revoir, merci.
Les petits bateaux, après ce journal.
France Inter.
L'Europe s'est donc réunie à Calais pour lutter contre le trafic migratoire. Cette réunion, sans le Royaume-Uni exclu par la France, fait suite au naufrage survenu dans la Manche mercredi dernier et qui avait fait 27 morts. Le point le plus important de cette réunion est la lutte contre les passeurs qui se jouent de nos frontières, a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avant la rencontre. Et à l'issue de la réunion, Gérald Darmanin a voulu calmer les tensions avec Londres. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Frédéric.
Une réunion, a-t-il dit, qui n'était pas anti-anglaise.
Voilà, le ton est effectivement à l'apaisement côté français après la colère froide de ces derniers jours. La géographie nous l'impose, a répété Gérald Darmanin. Nous souhaitons travailler avec nos amis britanniques. Les échanges entre nos deux pays sont importants. Les Britanniques, nos alliés. Alors certes, le ministre de l'Intérieur français ne s'est pas privé de répéter que la France n'était pas les supplétifs des Britanniques, ni de tacler Londres sur la coopération policière. Mais l'objectif est là. Il y aura un nouveau cadre de coopération avec la Grande-Bretagne à qui l'on demande notamment de revoir son marché du travail. La France se dit convaincue que c'est l'attractivité économique britannique qui incite ses migrants à prendre tant de risques pour traverser la Manche. La France qui souhaite également que la Grande-Bretagne ouvre des voies légales de migration. C'est un énorme chantier hein, et qu'elle bâtisse une vraie politique d'asile puisqu'aujourd'hui, Frédéric, l'asile est quasiment inexistant outre-Manche.
Quelles sont, Marie-Pierre, les principales mesures décidées aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, d'abord, vous le disiez, la lutte contre les passeurs va être renforcée. C'est ce qu'a assuré le ministre de l'Intérieur avec de nouveaux moyens.
Il a été décidé aujourd'hui, cette réunion a servi au moins ça, qu'à partir du 1er décembre, un avion européen, allait jour et nuit pouvoir aider la police française, la police néerlandaise, la police belge, à voir les réseaux de passeurs, à voir les traversées et à les prévenir le plus en amont possible.
Voilà, un avion qui n'aura pas d'équipage britannique, a-t-il souligné, un avion de Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières. Et puis surtout, car c'est une avancée certes mais bien maigre, la France a réussi avec cette réunion à européaniser cette question, à sortir d'un face-à-face mortifère avec la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi la Commission européenne était là. Paris peut donc se prévaloir de leur appui et c'est sans doute le plus important.
Marie-Pierre Véraud, merci. Dans l'actualité, ce soir également, l'inquiétude dans le monde qui prend de l'ampleur face aux nouveaux variants Omicron. Du coronavirus en Europe. La traque à ce variant est lancée et la contagion se poursuit. Une course contre la montre est engagée contre ce variant, explique la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Des cas de contamination ont été identifiés dans 6 pays, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la République tchèque et désormais les Pays-Bas avec un cluster à l'aéroport d'Amsterdam où 13 voyageurs en provenance d'Afrique du Sud ont été contaminés par le variant Omicron. Pour limiter les risques de contagion, plusieurs pays dans le monde se barricadent. Le Maroc suspend à partir de demain soir et pour 2 semaines toutes les liaisons aériennes en provenance de l'étranger. De son côté, Israël, qui ne veut prendre aucun risque, ferme ses frontières à partir de ce soir aux ressortissants étrangers en pleine fête de Hanouka, la fête des Lumières. Sur place à Jérusalem, Alice Roussard.
Il y a ceux qui sont attristés à l'idée de ne pas pouvoir passer les fêtes avec ceux qui comptaient leur rendre visite. Mais il y a aussi ceux pour qui cette fermeture des frontières et cette interdiction d'entrée aux touristes va affecter la vie quotidienne. Youssef est un vendeur de souvenirs dans la vieille ville de Jérusalem et son magasin commençait à regagner doucement quelques clients depuis un mois.
C'est très difficile. Il y a bien eu la première intifada, puis la seconde intifada où on fermait. C'était la même chose, mais c'était de bien plus courte période. Car quand les affrontements étaient terminés, les touristes revenaient directement. Normalement, à cette période, on ne trouve pas de place pour manger au restaurant. Ils sont tous pleins de touristes. Mais cette année, tout va être vide.
Bilal, un autre commerçant de la vieille ville, a surtout eu une impression de déjà-vu lorsqu'il a appris la nouvelle.
Là, on en a marre du coronavirus. Vraiment marre.
Mais ce vendeur de tissus, d'étoles et de vêtements traditionnels reste compréhensif. Si les frontières ferment, dit-il, c'est avant tout pour que tout le monde reste en bonne santé.
Les gens meurent du coronavirus, donc le gouvernement essaie de prendre des mesures pour qu'on soit tous protégés, mais vous savez, les gens ne comprennent pas tout.
C'est l'objectif du gouvernement, contenir la propagation du virus en attendant d'en savoir plus sur ce nouveau variant.
En France, si aucun cas officiel du variant Omicron n'a été détecté, il s'agit d'une question d'heure, selon Olivier Véran. 10 cas possibles, ajoute ce soir Gabriel Attal. Il est probable que ce variant circule déjà en France, selon le ministre de la Santé. L'irruption de ce nouveau variant ne devrait pas mener à un renforcement en France des mesures sanitaires à court ou à moyen terme. Olivier Véran.
Nouveau variant ne veut pas forcément dire nouvelle vague ou que le variant soit plus dangereux. Tous les chercheurs du monde entier, évidemment, sont à pied d'œuvre pour regarder si ce variant présente des éléments qui doivent nous inquiéter ou pas. De toute façon, dans le doute, nous agissons comme si ce variant était potentiellement dangereux. Et donc, nous isolons. Vous avez vu, il y a des mesures qui ont été prises dans le monde entier. La France, d'ailleurs, il n'y a plus de vol qui peut provenir d'Afrique australe depuis plusieurs jours. J'ai signé ce matin est paru un arrêté qui prolonge jusqu'à mardi soir à minima l'interdiction de vol en provenance de l'Afrique australe à destination de la France. Et nous travaillons d'arrache-pied avec toutes les cellules territoriales des agences régionales de santé pour identifier des éventuels cas suspects, les isoler, les tester et regarder si ce variant a déjà fait son apparition sur le territoire. Mais dès lors qu'il circule en Angleterre, en Italie, en Belgique, il est probable qu'il y ait déjà des cas en circulation. Nous les identifierons et nous ferons ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire nous freinerons au maximum sa diffusion et sa circulation.
Olivier Véran, ce matin, dans un centre de vaccination à Paris. Alors, ces fermetures de frontières en cascade, avec également la suspension des vols en provenance ou vers l'Afrique australe, sont une mauvaise nouvelle pour le secteur aérien. Le transport aérien était sur une lente pente de redémarrage et si les mesures de restriction continuent, cela pourrait avoir de graves conséquences pour les compagnies aériennes. Alexandre de Juniac, ancien directeur général de l'Association internationale du transport aérien.
C'est pas une bonne nouvelle pour le secteur aérien qui était sur la pente lente du redémarrage, qui vient être frappé de manière inattendue et difficile. Si les mesures d'interdiction continuent, c'est un désastre pour le transport aérien. Alors jusque-là, le secteur a été sauvé grâce à l'intervention très vigoureuse et très rapide des États, qui a mobilisé des moyens considérables, et d'ailleurs les compagnies en sont extrêmement reconnaissantes. Et donc si les mesures de suspension continuent, il faudra que les États continuent à aider le secteur, sinon on assistera à la disparition de compagnies supplémentaires.
Alexandre de Juniac, l'ancien directeur général de l'Association internationale du transport aérien. Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, se rend aujourd'hui aux Antilles. Une visite de 48 heures après pratiquement 2 semaines de violence et d'un mouvement important de contestation sociale. Sébastien Lecornu sera ce soir à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, où le refus de l'obligation vaccinale des soignants a provoqué des émeutes et des pillages. Il se rendra ensuite en Martinique, où la contestation a fait tache d'huile. Une visite pour tenter d'apaiser les tensions et qui a été rendu possible après un retour au calme sur place. Et en Guadeloupe, on attend des réponses de Sébastien Lecornu, Jean-Marie Nomertin, membre de l'intersyndicale à l'origine de la contestation.
Le gouvernement s'est enfin décidé à faire le minimum. Mais on connaît les visites ministérielles, ce que ça donne à chaque fois. La seule chose qui nous importe, c'est c'est de répondre aux revendications, de ne pas venir faire un coup, de ne pas venir faire une visite, de ne pas venir parce que la pression de la rue et la pression des opposants politiques du gouvernement incitaient donc le ministre à faire le déplacement. On ne se fait pas d'illusions, on jugera à travers les actes et les décisions qui seront prises par ce gouvernement. Ce qui nous importe, c'est de répondre aux revendications.
Jean-Marie Nomertin, interrogé par Guadeloupe Première. En bref, à l'étranger, la France va commencer à rapatrier ce soir ses ressortissants en Éthiopie. Un avion spécialement affrété doit décoller d'Addis Abeba. La France et l'Allemagne ont appelé mardi dernier l'ensemble de leurs ressortissants présents en Éthiopie à quitter le pays sans délai face à une escalade militaire alarmante sur le terrain. L'affaire Nicolas Hulot et l'onde de choc qui secoue les écologistes et la campagne de Yannick Jadot. Mathieu Orphelin, un proche de Nicolas Hulot, accusé d'agression sexuelle et de viol, a donc été écarté de la campagne présidentielle de Yannick Jadot. Mathieu Orphelin était le porte-parole du candidat écologiste à la présidentielle, selon Europe Écologie Les Verts. Mathieu Orphelin n'a plus la sérénité nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Une décision qui fait l'unanimité en interne chez Les Verts. Marie Maheu.
Et pour plusieurs raisons. La première, c'est la proximité entre Nicolas Hulot et Mathieu Orphelin, membre de son équipe de campagne pendant la primaire écologiste en 2011, puis porte-parole de sa fondation pendant 3 ans jusqu'en 2015. Il ne s'agit ni de l'accabler ni de dire qu'il savait pour les agressions sexuelles, mais rester porte-parole dans ce contexte, c'est compliqué, témoigne l'un des membres de l'équipe de campagne de Yannick Jadot. Et puis il y a aussi son positionnement en 2018 quand un premier article accuse Nicolas Hulot. Mathieu Orphelin parle alors sur Twitter de rumeurs infondées et d'inquisitions, donc il ne pouvait pas continuer à porter la parole d'Europe Écologie Les Verts, explique un autre cadre du parti. Alors, coup dur à 5 mois de l'élection présidentielle ? Pas du tout, répond par exemple Raphaël Rémy-Leleu, porte-parole en Ile-de-France. C'est une bonne chose pour la continuité de la campagne, cela montre que nous prenons au sérieux ces accusations. À ce jour, aucune autre mise à l'écart ne serait envisagée au sein d'Europe Écologie Les Verts.
Marie Maheu. Météo France avait annoncé la neige tombe en ce moment sur les montagnes en abondance et les skieurs sont de retour dans les Pyrénées. Pour l'instant, la seule station de portée Plumerins a ouvert. Les remontées mécaniques étaient à l'arrêt depuis le 15 mars 2020 et depuis une semaine, les skieurs et les commerçants sont soulagés et malgré une météo difficile, il y a du monde sur les pistes. Reportage Claire Guédon, France Bleu Roussillon.
Il fait moins 7, la neige tombe à gros flocons et le vent souffle. Mais peu importe, les skieurs sont trop pressés de retrouver les pistes.
Il fait froid.
C'est la première fois que je vais skier par ce temps, quoi. Franchement, on est content d'être là. En famille, ça va faire du bien. En plus, on se retrouve aussi avec le Covid, on ne s'est pas vu.
Un moment que Manon a attendu avec impatience pendant presque 2 ans.
Vraiment, ça manquait. Les enfants sont ravis. Voilà, il nous tardait de redescendre les pistes. On va revenir aux vacances de ski en février, mars.
Une réouverture qui fait aussi le bonheur des commerçants. Betty et Jean-Luc tiennent un magasin de location de ski.
Ça nous a fait du bien vu l'année qu'on a passée l'année dernière où tout était fermé. Ils sont revenus.
De revoir des gens, d'avoir des contacts, de leur expliquer la façon de chausser. On fait notre métier, c'est très valorisant pour nous.
Et samedi, ce sont 1500 skieurs qui sont venus. Une fréquentation qui donne de l'espoir à Yves Olive, chef de l'exploitation du domaine.
Ça fait plaisir de revoir les gens et pourvu que ça dure et que les gens reviennent encore. J'avais un peu peur de baisse de fréquentation et puis j'ai été surpris de la fréquentation d'hier. Donc la baisse, je pense qu'elle n'y sera pas.
Pour l'instant, la moitié seulement des remontées est ouverte. Le domaine complet devrait rouvrir le week-end prochain.
Claire Guédon a porté Puy-Morins dans les Pyrénées. À 19h13 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Luc Chemla.
Bonsoir.
Et on commence avec la 15e journée de Ligue 1 de football et le PSG qui tremble.
Non pas à cause de sa performance sur le terrain. Belle victoire, 3-1 cet après-midi à Saint-Etienne. Mais plutôt suite à la blessure de l'une de ses stars, le Brésilien Neymar. Avec cette image terrible pour les supporters, sa sortie sur civière, Rodolphe Montagnier.
L'attaquant brésilien a été touché à la cheville gauche après un tacle du défenseur stéphanois Ivan Masson à 10 minutes de la fin de la rencontre.
Je fais un tacle, je le touche pas, il retombe sur ma jambe et il se tord la cheville. Maintenant je suis triste pour lui parce que je sais que ça fait les blessures et j'espère qu'il va se rétablir le plus vite possible.
Ivan Masson a lui-même été gravement blessé à un genou en début de saison dernière. En évitant le tacle du défenseur stéphanois, Neymar s'est mal réceptionné. Sa cheville s'est brutalement tordue, le brésilien a immédiatement hurlé de douleur avant d'être obligé de sortir sur civière. Gerson au PSG n'a oublié qu'il y a un an, c'est cette même cheville touchée face à Lyon qu'il avait tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le Brésilien a été l'avant-dernier joueur parisien à quitter le stade Geoffroy Guichard aujourd'hui. Avec des béquilles et une attelle pour immobiliser son articulation, il doit maintenant passer des examens plus approfondis pour connaître la nature exacte et la gravité de sa blessure. À Saint-Étienne, Rodolphe Montagnier, France Inter.
Le PSG qui perd Neymar, mais récupère son défenseur espagnol Sergio Ramos. Date importante, le champion du monde a joué aujourd'hui son tout premier match sous les couleurs parisiennes. Arrivé cet été, l'ancienne star du Real Madrid était blessé au mollet. Au classement de la Ligue 1, Paris continue de s'envoler, 12 points d'avance sur son dauphin, le Stade Rennais. Plus que 24 heures à attendre pour les fans de foot, on saura demain qui de Karim Benzema, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Robert Lewandowski remporte le Ballon d'Or, trophée qui récompense le meilleur joueur de la planète. Il sera remis lors d'une cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris.
Vivement demain, et le miracle qui s'éloigne, l'équipe de France de tennis, ça va mal.
Mais oui, ça va mal, la qualification pour les quarts de finale est quasiment impossible désormais à obtenir. La faute à la victoire de la Grande-Bretagne aujourd'hui contre les Tchèques dans notre groupe, c'est de la Coupe Davis. Les Bleus, c'est sûr, ne termineront pas premiers de leur poule. Seule chance, la place de meilleur deuxième, tout groupe confondu. Là, il faut sortir la calculette, mais c'est mal embarqué à cause notamment des défaites en simple de Richard Gasquet et Adrian Manarino. Tout dépend maintenant des résultats des autres pays. Il dénonce le chantage des organisateurs habitués des phrases chocs. Le père du tennisman Novak Djokovic annonce que son fils, numéro 1 mondial, ne participera probablement pas à l'Open d'Australie. Le premier grand chelem de l'année est prévu en janvier. Il critique notamment le choix d'obliger les joueurs à se vacciner contre le coronavirus pour venir jouer. Le Serbe a d'ailleurs toujours refusé de dire s'il était ou non vacciné. Novak Djokovic, déjà titré 9 fois à Melbourne et qui vise un 21e titre en grand chelem. Un record.
Le top 14 de rugby et la soirée s'annoncent stressantes mais belles pour les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles.
Avec une obsession, surtout ne pas laisser Toulouse s'envoler en tête du classement, et qui s'est imposé d'ailleurs hier à Brive et a provisoirement 7 points d'avance. Mais pour ça, il va falloir être solide car les Bordelais se déplacent à 21h sur la pelouse synthétique du Racing Métro 92. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Luc.
Vous êtes en direct devant Paris La Défense Arena, le stade des Racing Men. Alors pas besoin d'être forcément mordu de rugby pour s'intéresser à ce match, car au-delà du score, il devrait y avoir du spectacle. Leurs confrontations sont toujours spectaculaires.
Et oui, à croire que par ces températures glaciales, la douceur de la Défense Arena et sa pelouse synthétique conviennent bien aux qualités offensives de ces deux équipes. C'est vrai, depuis 2 ans, elles nous offrent une bagatelle d'essai. Mais attention, le Racing est prévenu. À la fin, normalement, c'est toujours Bordeaux qui gagne. Et c'est sans doute pour éviter une troisième défaite d'affilée face à l'UBB que les Franciliens ont repoussé les vacances de leur capitaine Gaël Ficou, qui avait pourtant livré une superbe bataille face aux Blacks le week-end dernier. Il sera sur le terrain, il retrouvera en face de lui le Bordelais et international tricolore Cameron Wauki, qui lui aussi a préféré rejouer dès ce soir plutôt que de partir au soleil. Et on se dit, on peut raisonnablement, que si les deux sont alignés, ce n'est pas pour faire que joli. Voilà aussi pourquoi on s'attend à un superbe match ce soir entre Bordeaux, vous l'avez dit, qui veut conforter sa deuxième place, et le Racing qui doit le remporter pour rester sixième.
Merci beaucoup Fanny Lechevestrier de la direction des sports de Radio France.
Le monde de la Formule 1 perd l'un de ses grands noms.
Ah oui, le Britannique Frank Williams, fondateur de la célèbre écurie qui porte son nom, est mort à l'âge de 79 ans. Son équipe l'a annoncé ce dimanche sur Twitter. C'est vraiment une icône du sport automobile. Fondée dans les années 70, son écurie a remporté 16 titres mondiaux, 9 chez les constructeurs, 7 chez les pilotes. Sa vie est notamment marquée par un terrible accident de voiture en mars 1986. Il était depuis tétraplégique. Alors les hommages, évidemment, se multiplient. Le français Jacques Lafitte a été l'un de ses pilotes pendant plusieurs années. Voici l'image qu'il en gardera.
Donc, je suis vraiment très sportif. Il faisait du footing toute la journée, tous les matins. Et puis, hargneux, il a fait rien, quoi, je veux dire. Il a tout fait pour être dans la course automobile. Il s'est battu comme un diable avec peu d'argent. Et puis, tout doucement, il a trouvé les financements nécessaires et les doigts à son talent. C'était un garçon, un Anglais, difficile, mais charmant. J'avais de très bons rapports avec lui. Je me suis beaucoup amusé parce que je faisais le petit français qui était dans une équipe anglaise. Et ça le faisait marrer de temps en temps. La Formule 1 va prendre un grand coup parce que il a tellement participé à tout ce qui est arrivé et le courage qu'il a eu après son accident de continuer à venir sur les grands prix, de mener son équipe et son entreprise, je trouve que c'est formidable. Et je suis très triste aujourd'hui parce que franchement, J'ai passé beaucoup de temps avec lui.
L'hommage du pilote français de Formule 1 Jacques Lafitte à Frank Williams, fondateur de l'écurie du même nom, est donc décédé à l'âge de 79 ans.
Et la Formule 1 continue. On va s'intéresser ce soir à la Formule E. Comme électrique, avec une saison qui se prépare dans une semaine, les équipes se retrouveront sur le circuit de Valence en Espagne pour les premiers essais. En attendant, l'écurie française DS Techita a fait cette semaine ses premiers tours de roue à Alès, dans le Gard, et développé un sport mécanique propre et performant. C'est ce qui motive toutes les équipes, des ingénieurs jusqu'aux pilotes. C'est le long format de ce soir, Guillaume Batin.
La DS Techita version 2021-2022 est cachée sous une épaisse couverture noire. Le pilote français, double champion du monde de formule électrique, Jean-Éric Vergne, retire le camouflage, une monoplace dorée tout en carbone apparaît, un concentré de technologie toujours plus performant.
On est passé de la première génération de Formule 1 à la deuxième, on a doublé d'autonomie. Chaque année on augmente un peu la puissance, là cette année on va avoir plus de puissance en course. L'année prochaine, on va nous présenter la nouvelle voiture la semaine prochaine d'ailleurs. Il y aura beaucoup plus de puissance, plus d'autonomie, une voiture plus légère, ça devrait être sympa.
Jean-Éric Vergne enfile casque et combinaison et part pour un quart d'heure de roulage sur le circuit. Chaque passage devant les stands est scruté par Thomas Chevauché, directeur de DS Performance. Avec ses ingénieurs, il cherche en permanence les sources d'amélioration et de récupération d'énergie.
On est dans un contexte de réchauffement global, on le sait. Il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait. Et il y a plusieurs solutions. Soit on limite nos déplacements, soit on essaie de faire en sorte que nos déplacements soient le plus vertueux possible. Et un déplacement vertueux, c'est un déplacement qui n'a pas d'émissions, donc avec une voiture électrique, et qui est capable d'utiliser au mieux l'électricité disponible pour pouvoir en utiliser le moins possible et être le moins dépendant possible des infrastructures dont on le sait. Qui sont un vrai challenge.
Et cette recherche de la performance dans le sport se transforme aussi en performance industrielle pour les voitures hybrides que DS produit en Chine et en Europe. Bastien Schupp, le directeur marketing de DS.
La Formule E est clairement un laboratoire technologique pour nous et nous permet de faire des vrais transferts technologiques entre la course et la voiture de série. Si je prends la récupération d'énergie au freinage ou la gestion de l'énergie et des batteries, c'est clairement des technologies que nous transférons directement de la course à la voiture de série.
Les plus grands constructeurs sont arrivés récemment en Formule E comme Jaguar, Porsche ou Nissan. Même si la pandémie de Covid-19 a ralenti la croissance de la catégorie, c'est bien ici que l'on développe les technologies qui seront embarquées demain dans nos voitures de série.
Voilà des formules E très rapides et pas totalement silencieuses comme on vient de l'entendre avec Guillaume Batin.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre la page agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec une semaine politique riche et importante à droite chez les Républicains. Semaine de débat et de désignation du candidat à la présidentielle. Mardi, quatrième et dernier débat entre les cinq candidats à l'investiture du parti que vous pourrez suivre sur France Inter en édition spéciale toute la soirée avant le vote des adhérents LR pour choisir celui ou celle qui portera leur couleur en 2022 et le candidat sera officiellement désigné samedi prochain à 14h30. En politique encore, le meeting d'Éric Zemmour au Zénith de Paris, dimanche prochain, pour entériner, semble-t-il, sa candidature à l'élection présidentielle. Et puis à noter également deux rendez-vous à l'Assemblée nationale. Lundi, les députés examinent la proposition de loi visant à allonger de 2 semaines le délai de l'IVG. Et puis mercredi, en première lecture, les députés se penchent sur une proposition de loi pour combattre le harcèlement scolaire. À noter, demain lundi, un séminaire contre le séparatisme sera organisé à Matignon en présence de 450 hauts fonctionnaires. Autre rendez-vous sur l'agenda mercredi. Suite et fin de la réforme de l'assurance chômage après de nombreux rebondissements et la mise en place le 1er octobre du dernier nouveau calcul de salaire journalier de référence. Le dernier volet s'apprête donc à entrer en vigueur et les conditions se durcissent, Kathleen Comte.
À partir du 1er décembre, il faudra désormais avoir travaillé au moins 6 mois dans les 2 dernières années pour pouvoir toucher le chômage. Jusqu'à présent, c'était 4 mois sur un peu plus de 2 ans. Concrètement, avant le 1er décembre, une personne qui avait travaillé par exemple 4 mois et demi sur les 2 dernières années pouvait s'inscrire à Pôle emploi. Après le 1er décembre, il lui manquera 1 mois et demi de travail. Il ne pourra donc pas s'inscrire, en tout cas pas tout de suite. D'après l'UNEDIC, 450 000 personnes seront concernées par ce retard. 285 45 000 devront attendre moins d'un an, 5 mois en moyenne. Pour 200 000 autres personnes, ce sera plus d'un an d'attente. Et pour tous ceux déjà inscrits, il faudra travailler plus, au moins 2 mois de plus, sur une période plus courte pour renouveler leurs droits. Des droits plus faibles qu'avant, puisque début octobre, un autre volet de la réforme a été mis en place sur le calcul des indemnités, désormais raboté.
Didier Raoult sera fixé sur son sort vendredi. L'infectiologue connaîtra la décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Ses pairs l'accusent d'entorse au code de déontologie. Et puis vendredi également, à noter la 35e édition du Téléthon. Et puis, bien sûr, le temps fort de l'actualité la semaine prochaine. C'est mardi, l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. Édition spéciale, là encore, sur France Inter à partir de 17h, mardi. À Joséphine, la patrie reconnaissante. Joséphine Baker, femme noire, née aux États-Unis, vedette de musical des années folles, résistante, sera accueillie au Panthéon par Emmanuel Macron. Joséphine Baker est morte le 12 avril 1975. Et en nous plongeant dans les archives de l'INA, on a retrouvé le journal parlé annonçant son décès et une pépite, une interview de Joséphine Baker.
C'est une chanson que je pense tout le monde connaît, mais que nous n'entendrons plus chanter maintenant, ni en direct, ni sur scène. Trois lignes, en termes de métier, nous appelons cela un bulletin. Trois lignes datées par l'agence France Presse de 7h09 ce matin, d'un laconisme brutal. Joséphine Baker est morte à 5h à l'hôpital de la Salpêtrière, où elle avait été admise d'urgence jeudi à la suite d'un malaise. La grande vedette était âgée de 69 ans. Lynn Renault était à son chevet au moment où elle est morte.
Elle était tellement heureuse, elle était encore rajeunie par le bonheur.
J'ai deux amours, mon pays et Paris.
J'étais dans la résistance pour la simple raison que la France, mon pays, notre pays était en danger et il fallait faire quelque chose car je suis parmi des milliers de Français et d'autres personnes du monde entier qui mettent sur un pédestal la France. Alors, au commencement de la guerre, je me suis engagée comme IPSA, j'étais dans la Croix-Rouge française. Quand la France a commencé de subir la vraie catastrophe, et on nous a demandé de descendre avec ces réfugiés vers Brive-la-Gaillarde. Nous avons trouvé un petit hameau qui s'appelait Les Milandes, tout en ruine, sans pavé, sans route, pas de lumière, pas d'électricité, pas de l'eau. Tout le monde à cette époque descendait à la Dordogne pour laver le linge, etc., etc. C'est un domaine pour moi qui hébergeait à cette époque tous mes réfugiés et tous les gens qui étaient près de moi dans la résistance. Et tout ça, c'était construit sur un idéal auquel que je défends encore aujourd'hui et que je défendrai jusqu'à la fin.
Joséphine Baker au Panthéon, montage de cette séquence signée Sébastien Donna. Au générique de cette édition, Djenab Sangaré et Ludovic Asselot en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Corinne Audouin à la rédaction en chef, assistée de Carline Desrosiers et Sébastien Donna. Un grand merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
L'air froid continue à débouler des pays nordiques avec un balai de nuages porteurs de pluie et neige mêlée, voire neige sur les massifs, souvent en très basse altitude, d'où le maintien des 11 départements montagnards en vigilance orange, neige et verglas. Le Nord et le Pas-de-Calais sont quant à eux en vigilance crue. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées le sont en raison du risque d'avalanche. Cette nuit, avec le retour des gelées vers 0 moins 3 degrés, il faudra se méfier des plaques de glace. La neige va continuer à tomber en montagne, souvent à partir de 300 ou 500 mètres d'altitude et parfois en plaine, de la Belgique aux terres normandes jusqu'à l'ouest du Massif central, avec par moments des pluies verglaçantes. Demain, ce sera la fin des fortes précipitations neigeuses en montagne avec juste quelques flocons épars autour de la Méditerranée. Comme d'habitude, le vent turbulent va dégager le ciel. Une large moitié ouest du pays va retrouver le soleil, tandis que le long des frontières de l'Est, l'ambiance sera plus chargée.
Jean-Michel Golinski de Météo France.